la détermination de Daniel et de ses compagnons. Pour donner le meilleur à cette assemblée d'élèves admis à l'école nationale d'administration babylonienne, le roi va leur donner le meilleur, et en particulier le meilleur sur le plan alimentaire, du moins à ses yeux. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. C'est-à-dire que c'est sa propre nourriture qu'il partageait avec cette élite. Et vous comprenez qu'il souhaitait leur donner le meilleur. Il souhaitait le meilleur pour lui. Eh bien, ce qu'il considérait comme le meilleur pour lui, il voulait le donner aussi à ses étudiants. Du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles il serait au service du roi. La durée des études, 3 ans. Et on a pris quelques exemples de ces choses-là. On sait que pour une formation, une bonne formation, surtout à ce niveau-là, il faut bien 3 ans. On considère même maintenant qu'il en faut davantage, mais là, je peux vous dire que c'était intensif. Alors il va les prendre pas à son service tout de suite, mais dans son école. Et vous comprenez que dans ces conditions, c'était un honneur pour Daniel et ses compagnons de participer à la table du roi. Ils étaient des privilégiés. Alors évidemment, nous ne le voyons peut-être pas tout à fait comme cela. Et pour eux, c'était une difficulté, mais c'était d'autant plus une difficulté qu'on leur faisait une faveur. Bien. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, à Azaria, celui d'Abednego. Alors vous avez noté que les noms de ces jeunes Hébreux étaient tous en liaison avec le Dieu d'Israël. Daniel, Dan ça veut dire juge, Dani c'est mon juge, Daniel ça veut dire elle, Dieu est mon juge. Anania c'est Yah. Yah, c'est une abréviation de Yahvé. Hein. Donc, Yahvé m'a gardé. Michaël, c'est Michaël. Donc, qui est comme Dieu? Non pas un qui définit, mais un qui est une interrogation. Et nous avons déjà eu l'occasion de voir cela. Qui donc est comme Dieu? Ou qui est Dieu, à la limite? Et Azaria, c'est Yahvé. Alors vous avez toujours cette termination en Yah, qui est une diminution de Yahvé, hein, et qui indique Yahvé a aidé. Et nous allons voir que les noms babyloniens qui leur ont été donnés cherchent quand même à respecter un peu leur nom d'origine. Mais pas complètement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les acculturer, c'est-à-dire de les faire devenir dans leur pensée aussi babyloniens que possible, mais quand même de respecter ces noms. Alors, Daniel va s'appeler Belshazzar, c'est du nom de Bel. Hein. Bel garde sa vie. Bel, c'était le dieu tutélaire de Babylone. Et c'est le dieu qui est revendiqué par Nebuchadnezzar pour être son dieu. On l'appelait également Marduk. Et par exemple, le fils de Nebuchadnezzar va s'appeler Evil-Merodac. Mais Merodac, c'est une autre manière de dire Marduk. Evil-Marduk. Maintenant, Anania va s'appeler Shadrach. Alors, Shadrach, vous savez, cette terminaison en « ak », qui évoque le dieu Akou. C'est un des dieux babyloniens importants, le dieu Akou. Et cela signifierait serviteur du dieu Akou, Shadrach. Michaël va devenir Meshach, avec la même terminaison en Ak, c'est le dieu Akou. Hein. Et c'est la même question, qui est Dieu ou qui est comme Dieu? Et là, ça veut dire, mais qui est Akou ou qui est comme Akou? Et Abednego, alors vous avez dans Nego une petite déformation du mot, du nom du dieu Nebo, ou Nabou. Et donc c'est le serviteur du dieu Nego, ou Nabou. Mais vous voyez la différence entre ces deux noms, par exemple dans Azaria. Le serviteur, c'est celui qui aide son maître. Tandis que le nom de Azaria, c'est Dieu aide. Qui aide l'autre? Voyez? Est-ce qu'on est dans celui qui va servir Dieu, qui va donner à Dieu? Ou est-ce qu'on est dans la pensée que c'est Dieu qui donne? Et vous voyez qu'il y a là toute une nuance, toute une évolution, toute une pensée qui quand même est différente dans le milieu babylonien que dans le milieu hébreu. Mais une tentative de respect quand même, une tentative de conserver quelque chose de leur identité. Je vous ai marqué là quelques noms de divinités babyloniennes et vous retrouvez Nebo, hein, qui est Enki, alors qui représente les eaux souterraines et la magie. Enlil, qui représente l'atmosphère. Je ne vous ai pas parlé de An, qui est le dieu suprême, mais dont finalement on parle peu, mais qui va se retrouver dans tous les autres. Et puis vous avez Inanna, qui est Ishtar. Alors ces flèches indiquent des filiations, parce qu'évidemment dans cette mythologie babylonienne, les dieux ont des enfants, voilà, et ils ont des descendants comme ça sur plusieurs générations. Inanna, c'est Ishtar. Et vous savez que un des symboles de Babylone, quand vous allez au musée à Berlin, au musée Pergamon, c'est d'avoir cette porte d'Ishtar, avec ses émaux extraordinaires. Hein. Eh bien, Ishtar, donc, ou Inanna, c'était l'équivalent de la Vénus de la mythologie gréco-romaine. Hein. Et elle symbolise l'amour et la guerre, etc. Et puis vous avez Marduk, sur la troisième ligne, donc en troisième génération, vous avez Marduk, qui est aussi Bel. Ça, c'était le dieu tutélaire de Babylone. C'était le dieu de Nebuchadnezzar. Hein, c'est celui qu'il révérait particulièrement. À côté, vous trouvez le dieu Nana, ou Akou, le Akou, donc le Ak, que vous trouvez dans Meshach et Shadrach. Hein, et qui est aussi le mot, le dieu Sin. Alors le dieu Sin, par exemple, c'était le dieu qui était particulièrement révéré par Nabonide, le père de Belshazzar. Et c'était le dieu Lune. Et puis vous avez enfin Ninurta. Mais voyez que c'est pas, je vous dis pas ça pour connaître les dieux babyloniens, mais simplement pour vous dire que dans les noms de ces personnages, on leur a donné des noms de dieux. Des dieux babyloniens. Et Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous avez dans ce texte plusieurs choses intéressantes. D'abord la notion de se souiller. En quoi la nourriture qui leur était proposée était susceptible de les souiller? Alors, elle pouvait l'être de plusieurs manières, impure pour ces jeunes gens. D'abord parce que le choix des animaux qui étaient offerts, là, en sacrifice, et qui étaient offerts à la nourriture, pouvait ne pas être des animaux recommandés par le Lévitique. Il pouvait y avoir du cochon, il pouvait y avoir du cheval, il pouvait y avoir des choses comme ça, choses que Dieu avait interdit à son peuple. Le premier élément. Mais il y a un deuxième élément. Et on en parle pas mal maintenant avec les notions de halal ou de kasher, hein, dans nos sociétés actuelles. Et la manière dont était tué l'animal pouvait être également une manière qui n'était pas conforme avec ce que Dieu avait déclaré, et en particulier le fait de saigner l'animal. Le fait que l'animal devait être sans défaut, absolument sans défaut. Bien. Et puis il y avait enfin quelque chose qui était certainement sous-jacent, beaucoup plus important pour eux, c'est que ces animaux, avant d'être présentés à la table du roi, étaient offerts aux dieux de Babylone. Et donc manger de cette viande-là, c'était participer au culte. Vous savez que même en Israël, les sacrificateurs mangeaient la viande qui était offerte et qui était sacrifiée. Et ce faisant, ils participaient à ce culte. Ce faisant, ils se chargeaient des péchés d'Israël. Ils s'en déchargeaient ensuite, et vous aviez tout le rituel du sanctuaire. Mais vous voyez qu'il y avait là un sens très fort pour ces jeunes gens, et qu'évidemment, ils ne pouvaient pas participer à cela. Ah donc, ils ne pouvaient pas participer de près ou de loin à ce culte. Et le deuxième point que je voudrais souligner dans ce texte-là, dans ce verset-là, c'est que Daniel ne va pas chercher à invoquer des raisons que nous invoquerions peut-être aujourd'hui d'allergie ou d'intolérance, le fait de ne pas pouvoir supporter sur le plan de la santé tel ou tel produit. Il va demander au chef des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Vous l'avez dans le texte là. De ne pas l'obliger à se souiller. Mais si vous allez trouver quelqu'un comme le chef des eunuques là, en lui demandant de ne pas vous souiller, comprenez-vous l'injure que ça peut représenter pour lui? Nebuchadnezzar est en train de donner le meilleur de ce qu'il pense être le meilleur. Et on lui dit, non, j'en veux pas parce que ça risque de me souiller. Vous voyez la difficulté là. Et Daniel sait qu'il a une partie sans doute difficile à jouer. Mais il ne va pas donner d'autres raisons. Il va dire voilà. Et quand il explique qu'il ne veut pas se souiller, eh bien il va certainement être amené à expliquer ce qu'est sa foi, ce qu'est sa croyance. Pourquoi cela va le souiller alors que c'est considéré comme le meilleur? Donc vous voyez, il va devoir témoigner de sa foi pour être vrai. Oh, il ne cherche certainement pas l'affrontement, mais il est obligé d'être vrai dans cette situation. Et alors, avant d'aller trouver ce chef des gardes, vous avez un petit mot là qui est très intéressant dans ce verset. Daniel résolut dans son cœur. Le mot qui est là signifie poser. Daniel et ses compagnons ont posé dans leur cœur ce choix de ne pas se souiller avec les mets du roi. Je crois qu'il y a là, pour nous tous, une indication précieuse. Quand nous avons une démarche difficile à accomplir, est-ce que nous avons déjà dans notre cœur posé cette chose-là? Comme pour dire, ça, c'est intangible. Je le mets avant toute chose. Alors après, la démarche va suivre. Mais il faut d'abord poser dans son cœur. Si nous allons dans une démarche difficile, sans avoir résolu dans notre cœur, sans être ferme, on va être balayé par toutes sortes d'arguments, par toutes sortes d'idées contraires. Mais là, voyez, ils ont résolu dans leur cœur. Ils ont posé dans leur esprit et dans leur cœur de rester fidèles à Dieu. Bien. Alors ça comporte des risques. Oui, ça comporte des risques, mais ça permet à Dieu d'agir. Si nous sommes irrésolus, si nous sommes ballottés, si nous sommes flottants, Dieu ne peut pas intervenir. Mais si nous sommes résolus, alors nous laissons la porte ouverte à l'action de Dieu. On se met en danger en étant résolu, c'est vrai, mais on court aussi le danger, et je le mets entre guillemets, que Dieu puisse intervenir. Et vous avez la même chose avec les trois jeunes Hébreux, hein, au chapitre 3, avec la fournaise ardente. Ils ont choisi la fidélité, mais du coup Dieu peut agir. S'ils avaient choisi une position plus intermédiaire, plus souple, plus accommodante, quelle aurait été la possibilité d'action de Dieu ? J'essaie de vous faire comprendre que ce qui d'un côté semble nous mettre en danger, de notre côté ouvre la porte à l'action de Dieu. Alors je continue. Donc il pose cela. Et donc, une fois qu'ils ont choisi cela, ils vont expliquer au chef des gardes qu'ils ne peuvent pas se souiller. Et là, si vous voulez, là Dieu agit. C'est là la partie de Dieu. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Ça n'est pas simplement la sagesse de Daniel qui est intervenue. C'est Dieu qui est intervenu là. Mais Dieu n'a pu intervenir que parce que Daniel avait fait son choix, avait posé son choix. Et donc Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Vous avez là la part de l'homme et la part de Dieu. Approchez-vous de Dieu, nous dit Jacques, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Daniel était le contraire d'un homme irrésolu. Et Dieu peut s'approcher avec un cœur résolu. J'avance encore dans le texte et nous voyons au verset 10 ceci. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon maître, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge ? Vous mettriez ma tête en danger auprès du roi. » Et il a raison. Parce qu'il a reçu des ordres du roi. Rendez-vous compte que ce que Daniel et ses compagnons demandent à cet homme-là, c'est de transgresser les ordres de Nebuchadnezzar. Et vous savez ce qu'il en coûte de transgresser les ordres de Nebuchadnezzar ? C'est la mort assurée. Par conséquent, c'est un choix difficile pour cet homme-là. Et alors il va falloir trouver un compromis. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge ? Cet homme-là est persuadé que cette nourriture est la meilleure. Donc si vous faites autrement, rapidement vous allez décliner et rapidement le roi va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire que le roi n'avait pas donné une directive pour 3 ans, mais qu'il voyait régulièrement ces jeunes gens-là et qu'il vérifiait à la fois leur bon état de santé, leur bon état physique, leur bon état intellectuel. Donc il y avait une surveillance du roi. Et cet homme-là a peur. Alors, ils vont se mettre d'accord sur un compromis. Il va accepter et le test, mais avec certainement la conviction que ce test va échouer. Mais il va accepter le test. Ça, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que sinon, en toute rigueur, c'est pas possible cela. Alors il va accepter. Alors Daniel dit au maître d'hôtel, auquel le chef des eunuques avait remis Daniel, Anania, Michaël et Zaria, vous notez au passage que cette dérogation implique plusieurs personnes. Vous avez toute une chaîne, toute une organisation. Et là, on vous parle du maître d'hôtel, donc certainement celui qui était chargé de préparer la nourriture et de l'apporter. Alors Daniel dit au maître d'hôtel, auquel le chef des eunuques avait remis Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs. » Donc voilà une deuxième personne qui doit accepter le test pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Vous avez noté, dans l'alimentation de Nebuchadnezzar, il y avait du vin. Ils demandent à écarter le vin. Ils ne veulent que de l'eau. Et ensuite, pour éviter toute viande, éventuellement viande sacrifiée, ils vont demander des légumes. Alors le mot qui est employé là, semble-t-il, signifie plus que légumes. Ça signifie en gros tous les végétaux, semble-t-il. Bien. Ça ne veut pas dire que Daniel soit resté végétarien toute sa vie. Mais au moins pendant ces 3 ans, il l'a été. Et quand on le retrouve au chapitre 10, on se rend compte qu'il exprime que pendant 3 semaines, il n'est pas rentré de viande dans sa bouche. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il en consommait de temps en temps? Donc je crois que sur le texte, sur l'idée du végétarisme de Daniel, il nous faut rester prudent. Mais pendant ces 3 ans, là, c'est sûr, il est resté végétarien. Il va donc faire un essai. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Imaginez que vous ayez fait une telle proposition. Moi, il me semble que spontanément, j'aurais dit, et j'aurais eu tort, je vous le dis tout de suite, j'aurais dit, au bout de 10 jours, je verrai, et si ça marche pas, ça marche pas. Je prendrai la nourriture du roi. C'est pas ce que dit Daniel. Il est beaucoup plus sage que cela. Et regardez ce qu'il va dire. Après cela, tu regarderas notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras envers tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. C'est-à-dire qu'il ne prévoit pas le cas où lui aurait à changer de comportement. Il a résolu dans son cœur. Il propose un test, mais il propose un test pour que le chef des gardes change d'avis. Donc vous voyez, la proposition est totalement différente. Regardez cette sagesse de Daniel dès le départ. Et il va proposer ce test, non pas pour lui, mais il va le proposer pour le chef des gardes, pour le maître d'hôtel. Tu verras, et après tu agiras. Pour autant, je crois que si le test n'avait pas été concluant, ils auraient continué à rester fidèles à leur Dieu. Ça n'est pas un test pour savoir s'il va rester fidèle ou non, lui. C'est un test pour permettre au chef des gardes d'accepter apparemment l'impensable. Et il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Un test donc pour le chef des gardes. L'intendant emportait, alors au bout de 10 jours, excusez-moi, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Je ne crois pas qu'il faille prendre ce texte pour valoriser l'embonpoint. Ce n'est pas mon propos et ce n'est pas le propos du texte. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils avaient meilleure mine, on dirait, que les autres. Et ils avaient meilleure mine, effectivement, parce que cette alimentation était effectivement plus saine. Donc, le test est concluant. Donc ce n'est pas lui qui a changé, et de toute façon il n'aurait pas changé, mais c'est le chef des gardes qui va prendre une autre attitude. Et alors, regardez ce qu'on va être obligé de faire, parce que c'est à la limite de la légalité, là. L'intendant a emporté les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Vous comprenez ce qui se passe là? On leur apportait les mets du roi, comme aux autres. Mais ils n'y touchaient pas. Et pendant que les autres mangeaient, eux ne mangeaient pas. C'est-à-dire que devant cette bonne nourriture, il fallait rester résistant. Il fallait résister à l'appétit. Il fallait résister aux odeurs. Il fallait résister à ce plat appétissant. Et il fallait attendre qu'on remporte ces choses-là et qu'on leur apporte des légumes. Préparer comment, je ne sais pas. Mais le fait est que chaque jour, et plusieurs fois par jour, c'était une épreuve. Et donc, voyez, ce qu'ils avaient résolu dans leur cœur, en réalité, il fallait le tenir sur la durée. Et ils l'ont tenu. L'intendant donc emportait les mets du roi et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. C'est parce que Daniel a posé un choix dans son cœur qu'il peut tenir. Et le test n'est pas pour Ashpenaz, bien entendu, ni pour le maître d'hôtel, et n'est pas pour Daniel, mais pour le maître d'hôtel. Alors, j'aimerais maintenant que l'on se rende compte et que l'on voit l'importance dans nos vies de poser des choix. Le choix ne va pas être fonction de ce que nous imposent les autres, de ce que nous impose le monde. Il va être fonction de notre relation avec Dieu. Et j'espère que nous pouvons saisir qu'à partir du moment où nous restons fidèles, alors nous ouvrons à Dieu la porte de son intervention. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre?